Lorsque 2 heures plus tard arrive le moment du dîner, il se sent passablement maussade et dépité. Malgré tous ses efforts, il n'a pu l'approcher. Il n'a cessé de l'observer. Pas un instant, elle n'est restée seule. Elle a passé son temps à bavarder avec les uns ou les autres et, comme il ne connaît personne, il n'a eu aucun moyen de s'immiscer dans la conversation. Il aurait pu demander à Bérangère qui était cette jeune femme et s'arranger pour lui être présentée, mais il préfère ne pas mêler Bérangère à ses petites affaires. Elle ne pourrait manquer de trouver étrange qu'il s'intéresse à ce laidron de premier choix. Comme il le soupçonnait, la tablée est exclusivement composée de célibataires. Les sœurs des mariés, ses confrères avocats, 2 autres jeunes gens et... une chaise vide. Il prend soin de laisser la place inoccupée entre lui et maître Thierry Courteux. Il ne tient pas particulièrement à passer tout un dîner à côté de lui, et puis il ne voudrait pas que ce pauvre garçon souffre de la compassion. Maître Courteux est un avocat réputé pour ses brillants plaidoyers autant que pour sa prodigieuse laideur. L'élémentaire charité veut qu'il n'aille pas ramener sa belle gueule d'ange dans l'immédiate proximité de ce Quasimodo du barreau. Il se prépare lugubrement à subir un interminable dîner quand se produit le 2e miracle de la journée. Le somptueux laidron, qui depuis tout à l'heure occupe ses pensées, arrive en courant et vient prendre place à ses côtés, tout essoufflé, en s'excusant d'être en retard. C'est un signe du destin. Il décide d'attaquer fort. Il se penche vers la jeune femme et murmure. « Décidément, c'est une manie chez vous. »«
Que voulez-vous dire ?»
bredouille-t-elle en le dévisageant avec stupeur. « Hé, je vous ai vu arriver en trombe tout à l'heure au volant de votre Austin Mini. » Elle rougit de confusion. Il y a des femmes que cela rend charmante. Pas elle. Elle se racle la gorge.
« Je ne crois pas que nous ayons été présentés. Je suis Bénédicte, une cousine de Vincent. »
« Et moi, Damien, un confrère et ami de Bérangère, » répond-il en faisant l'œil de velours tout en lui décochant un sourire charmeur. Il espérait capter son attention, mais elle est déjà en train d'expliquer à la tablée entière les raisons de son retard à l'église. Une crevaison sur la nationale à 30 km de là. Évidemment, elle est complètement incapable de changer une roue et, de toute façon, ça n'était pas envisageable dans sa tenue de cérémonie. Alors elle a roulé jusqu'au garage le plus proche, un bâtiment à moitié en ruine au bord de la route. Le garagiste l'a laissé poireauter un bon moment à côté de la pompe à essence. Elle avait l'air fine avec son chapeau, ses petits escarpins et sa roue crevée. Il devait bien se ficher d'elle. Mais comme elle avait absolument besoin d'aide, elle a pris son mal en patience et, une fois la chose faite, a payé sans broncher les 130 euros de facture. « Un véritable cauchemar », conclut-elle. Tout le monde semble éberlué par sa logorée, mais il faut avouer qu'elle a un certain talent pour raconter les histoires. C'est d'ailleurs ce qu'il s'apprête à lui glisser à l'oreille. Il le sait d'expérience, un compliment bien troussé, murmuré à voix basse, permet un léger rapprochement physique et amorce un début de complicité. Mais au moment où il s'apprête à effectuer sa manœuvre stratégique, il se fait damer le pion par Maître Courteux.
« Vous feriez sans doute une excellente avocate. Vous avez un véritable talent pour raconter les histoires !»
s'exclame Quasimodo, véritablement transfiguré par l'admiration. La demoiselle glousse de plaisir et Damien sait qu'à compter de cet instant, il n'a plus aucune chance. Il connaît suffisamment bien les étapes du processus de séduction pour savoir qu'entre ces deux-là, le grand jeu a commencé. Sans doute chacun a-t-il reconnu en l'autre l'incarnation tragique et réconfortante de sa propre laideur. Ils sont faits l'un pour l'autre. Cela saute aux yeux, si l'on peut dire. Pour lui, la chasse est à présent fermée. Il contient sa rage et résiste à l'envie de quitter brusquement la table. Un bref instant, il entrevoit son reflet sur la lame de son couteau argenté. Que se passe-t-il ce soir? Comment l'ordre des choses peut-il se renverser à ce point? La suite du dîner est d'un ennui mortel. Les deux demoiselles ne prennent même pas la peine de participer à la conversation. Elles ont visiblement beaucoup de choses à se dire et nullement l'intention de s'embarrasser avec l'élémentaire politesse. La sœur de Bérangère a gardé son chapeau pour dîner. C'est étrange. Tout à l'heure, au cocktail, il a trouvé ce chapeau original et élégant, mais à présent qu'il l'a sous les yeux depuis plus d'une heure, il est nettement moins porté à l'indulgence. Toutes ces plumes qui s'agitent au moindre mouvement de tête lui font irrésistiblement penser à un champ d'herbage transgénique balayé par le vent. C'est grotesque, horripilant. Il essaie de détourner les yeux de l'obsédant chapeau, mais son regard ne cesse d'y revenir. Ce cauchemar va-t-il bientôt cesser? Après le dessert, le café et l'ouverture du bal, il peut enfin s'éclipser. Il décide d'aller faire un tour dans le parc pour tenter de se calmer. Jamais il n'a passé de soirée aussi exécrable. Sa déconvenue est d'autant moins supportable que, par la force des choses, il était aux premières loges pour assister au triomphe de son rival. Ce dernier a mené les opérations d'une main de maître, comme il se doit pour un avocat. Le petit boudin va se laisser emballer sans la moindre résistance. Pour couronner le tout, elle n'est pas sotte. Elle est même assez spirituelle. Il aurait certainement pu passer un très bon moment avec elle. Cela porte son dépit à son comble. Évidemment, il est contrarié à cause du pari. Mais c'est surtout son amour-propre qui en a pris un coup. Il n'a qu'une envie, rentrer illico à l'hôtel, prendre une douche et se coucher. Il tourne un moment en rond dans le parc avant de se diriger vers le parking d'un pas décidé. Il éprouve une sorte de hargne, l'envie de casser ou de piétiner quelque chose, une pile d'assiettes, l'ignoble chapeau à plumes, la tronche de Maître Courteux. En se déconnectant, l'alarme de la voiture jette dans la nuit un cri bref et strident qui le fait sursauter. Il demeure un instant stupéfait. J'ai sursauté en entendant l'alarme de ma propre bagnole. Il y a du souci à se faire. Il se sent soudain idiot, là, tout seul sur le parking, à côté de sa voiture ouverte. Il ne peut pas partir comme ça, de toute façon. Il faut aller prendre congé. De quoi il aurait l'air s'il s'en allait maintenant? Il vient de vivre un moment pénible, c'est vrai, et il est déçu de voir lui filer sous le nez une mocheté dont la reddition promettait d'être délicieuse. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et puis, il n'est pas du genre à laisser ses émotions prendre le dessus. Il n'est pas du genre à quitter une fête sans avoir passé une excellente soirée, d'une façon ou d'une autre. Il pense à toutes ces femmes élégantes qu'il a vues défiler à l'église cet après-midi. L'une d'entre elles parviendra bien à lui faire oublier sa déconvenue. Il ne va pas succomber au défaitisme parce qu'un horrible petit laidron a miraculeusement rencontré son alter ego par une chaude soirée d'été. Il se sent mieux. Il décide de tomber la veste et d'ôter sa cravate pour fêter l'événement. Puis il presse la clé de voiture et cette fois-ci le cri perçant signalant la reconnexion de l'alarme ne provoque chez lui qu'un sourire satisfait. Il aime les machines. Elles obéissent sans discussion. Elles sont programmées pour ça. De retour sous la tente, il parcourt des yeux la piste de danse avec tous ses petits culs qui remuent en rythme. Ce soir, il en veut un parfait, exceptionnel. Il lui faudra bien ça pour se remettre de sa déception. En voici un pas mal du tout, qui ondule joliment moulé dans une petite robe noire. Il frémit, instantanément revigoré. Il n'a Dieu que pour ce somptueux derrière. Soudain, la jeune femme se retourne et c'est le troisième miracle de la journée. La danseuse au cul magnifique est en réalité une femme d'un certain âge, très largement décolletée, une vieille belle mûre à point. Les affaires reprennent. Souriant, il s'avance sur la piste pour la rejoindre. Elle ne tarde pas à le remarquer. Il n'en est pas surpris. En général, on le remarque partout où il va. Il danse face à face. Il s'observe. Au bout d'un moment, elle lui dit « Vous ressemblez à Bernard-Henri Lévy ». Il réprime un sursaut. Il a déjà eu droit à beaucoup de comparaisons. Arthur Rimbaud, Antonin Artaud, mais Bernard-Henri Lévy, c'est la première fois. Si elle s'imagine que c'est un compliment à sortir comme ça sans préavis à un inconnu, elle est sacrément conne. De toute façon, il s'en fout. Il n'est pas là pour se trouver une femme intelligente. Il est là pour gagner un pari. Bernard-Henri Lévy, ça peut être une très bonne entrée en matière, après tout. Il prend un air suspicieux. « Rassurez-moi, je ressemble à Bernard-Henri Lévy aujourd'hui ou à Bernard-Henri Lévy il y a 30 ans ?» Elle s'esclaffe. À celui d'hier et d'aujourd'hui. Je voulais seulement vous signaler que vous aviez 3 boutons d'effet à votre chemise. Elle n'est peut-être pas si sotte après tout. Elle le regarde avec un sourire charmant, légèrement moqueur, en continuant de bouger en rythme. Ils se font face et il prend le temps de l'examiner en détail. Elle n'est plus toute jeune, mais elle est très bien foutue, il faut le reconnaître. Il fixe attentivement sa chevelure à la racine. Aucune nuance plus foncée. Une vraie blonde. C'est assez rare pour être noté. La ligne claire de ses sourcils semble le confirmer. Très jolies fesses, musclées et des seins qui se tiennent parfaitement, à se demander s'ils sont d'origine. Il lui donne la quarantaine et des poussières, mais on voit bien qu'elle fait tout pour paraître plus jeune et pour attirer les regards. Sans être véritablement vulgaire, elle est trop provocante pour avoir de la classe. Est-ce qu'il peut la considérer comme une vieille belle? Il va dire que oui. Au début du morceau suivant, il prend l'initiative de lui saisir la main pour l'entraîner dans un rock. Elle ne manifeste aucune réticence et semble même en être heureuse. C'est un plaisir de danser avec elle. Elle anticipe chaque mouvement et tournoie souplement entre ses bras. Leur danse ressemble à l'évolution parfaitement réglée de 2 corps en harmonie. Elle rit de plaisir chaque fois qu'ils réussissent une passe un peu compliquée. À la fin du rock, elle lui dit «
Vous savez, je ne pensais pas qu'on me ferait danser ce soir.
C'est le moment de placer la question stratégique. Comment ? Vous n'avez pas de chevalier servant ?
Oh si, mais mon chevalier servant est un peu fatigué.
Bien, bien. Passez immédiatement à la seconde question stratégique.
Et où est-il, ce preux chevalier ?
Elle tourne la tête et désigne une table au bord de la piste. Il la voit froncer les sourcils. Apparemment, son compagnon n'est pas là où il devrait être. Elle le cherche des yeux dans la salle. Soudain, elle se fige. De toute évidence, elle vient de le retrouver. Elle fixe un couple en train de danser à l'autre bout de la piste. Un homme élégant, un peu empâté, une femme plus âgée qu'elle et beaucoup moins séduisante. Quelques instants, elle reste sans rien dire.
« Il y a un problème ? » demande-t-il.
« Pas vraiment, » répond-elle les dents serrées. Elle observe le couple en plissant un peu les yeux.
« On dirait que mon chevalier servant a repris du poil de la bête, avec une cavalière digne de lui, »
lâche-t-elle avec mépris. Il voit bien qu'elle est contrariée. Elle fait ce qu'elle peut pour se dominer. Elle regarde encore quelques instants dans leur direction, puis se détourne brusquement et lui fait face.
« Il n'y a absolument aucun problème, » conclut-elle en souriant.
Il y a dans ce sourire quelque chose de féroce. Il ne sait pas exactement ce qui se passe entre cette femme et son mari, mais visiblement, tout ne va pas pour le mieux ce soir. Il sent qu'il a une carte à jouer.
« Vous ne voulez pas qu'on fasse une pause ? On peut boire un verre, faire quelques pas et retourner danser d'ici un quart d'heure. »
Un quart d'heure, c'est pour endormir sa vigilance. Si tout se passe bien, il réussira à l'entraîner plus loin qu'elle ne croyait aller. Elle le divisage un moment, l'air préoccupé, puis semble se détendre.
C'est une bonne idée.
Au buffet, elle réclame une flûte de champagne qu'elle boit d'un trait, puis une autre qu'elle conserve à la main pendant qu'ils sortent faire quelques pas dans le parc.
« Quelle belle soirée !» dit-il.
« Vous trouvez ?»
Je parle du ciel.
« Il est magnifique. »«
Ah oui, c'est vrai. Le ciel est très réussi ce soir. C'est déjà ça. »«
Vous ne vous êtes pas beaucoup amusé ?»«
On ne peut pas dire ça, non. Enfin, jusqu'au dîner, tout allait bien. »«
Ah !» « Vous aussi, vous avez eu des voisins de table difficiles ?»
Elle sourit.
« Effectivement, cela a été un peu difficile, comme vous dites. »
Il rit de leur mutuelle déconvenue. Elle a de l'esprit. Cela rend les choses encore plus agréables. Ne pas perdre de vue l'objectif. Évaluer le risque.
« Vous êtes de la famille de Bérengère ?»
Elle a un petit rire.
« Si on veut. »
C'est une réponse pleine de mystère, ça.
« Disons que oui, je suis de la famille. De la famille éloignée. »
Ah !
Tout va bien. Elle n'a pas de lien très intime avec Bérengère. Il va pouvoir y aller.
Et vous, vous êtes de la famille de Vincent ?
Non, pas du tout. Je suis un ami de Bérengère. Je crois qu'elle m'a invité en espérant me donner une chance de rencontrer l'âme sœur.
C'est un bon calcul. Les mariages sont des occasions de faire de belles rencontres, non ? Elle le regarde droit dans les yeux en attendant sa réponse.
Oui,
confirme-t-il en lui adressant un large sourire.
De belles rencontres, parfois tout à fait inattendues.
Elle lui rend son sourire. Elle est flattée. Il se penche vers elle et murmure d'un air très respectueux.
« Je voulais vous dire que je vous trouve rayonnante. »
Les femmes aiment qu'on les trouve rayonnantes. C'est un compliment dont il fait grand usage, élégant et adapté à tout âge. Elle rit.
« Je crois que vous êtes un grand flatteur. »
« Mais pas du tout. Sincèrement, je vous trouve rayonnante. »
Elle hausse les épaules comme pour chasser une pensée triste et répond. « Peu importe que vous le pensiez ou non, ça me fait de toute façon plaisir de l'entendre. C'est exactement ce que j'aimerais qu'on dise de moi. »
« Eh bien, vous êtes rayonnante. Vous voyez, je vous le dis encore une fois, sans arrière-pensée, vous êtes rayonnante. »
Elle sourit et boit une gorgée de champagne. Décidément, elles sont toutes pareilles.
Il leur faut un petit coup de trop pour pouvoir franchir la limite, faire un pas de côté. Ce sera leur excuse plus tard, lorsqu'elles s'en souviendront. J'avais bu, je n'étais plus tout à fait moi-même. Jamais ça ne sera arrivé autrement.
Ils se sont peu à peu enfoncés dans le parc. Ils sont loin de la tente à présent. La nuit est si claire qu'il distingue nettement les contours de son visage. Il la regarde et ne trouve plus trop quoi ajouter. De loin, sur la piste de danse, on pouvait la confondre avec ces créatures entre deux âges, un peu trop blondes, un peu trop décolletées, un peu trop désireuses de cacher qu'elles ont dépassé la quarantaine. Mais il doit reconnaître à présent que c'est une femme très séduisante. Elle s'habille comme une fille de 20 ans, mais elle a un corps qu'envieraient bien des filles de 20 ans. Il regarde son visage, marqué de fines rides, ses yeux, sa bouche, et se dit qu'il n'a pas eu souvent l'occasion de croiser une femme aussi belle. En vérité, il n'a pas menti. Il la trouve rayonnante.
Il sent bien qu'elle n'est pas comme les autres. Mais il faut avant tout penser au pari. Ce serait complètement idiot de laisser tomber alors qu'elle est là, à côté de lui. Il la tient presque. Ça ne serait pas bien méchant. Elle a dû en voir d'autres.
« Ça va ?»«
Vous me regardez avec un drôle d'air. »
Il se racle la gorge.
« Je me demandais si vous aviez froid. On s'est pas mal éloigné. Vous voulez qu'on revienne sur nos pas ?»«
Non, au contraire, je suis très heureux de marcher avec vous. »
Elle sourit, ne répond rien. Elle continue de marcher à ses côtés. L'air de rien, il l'entraîne sur un petit sentier qui s'engage dans le sous-bois. Au loin, on entend la rumeur sourde du moulin. Il se rend compte qu'il a très envie d'elle, et ça le rend maladroit. Il cherche ses mots. Il ne veut pas lui poser de questions personnelles, qui lui en apprendraient trop. Il veut qu'elle reste une inconnue au corps désirable, avec qui il a aimé danser, et avec qui il aimerait à présent aller un peu plus loin, et même beaucoup plus loin. Il comprend que ce soir, le pari n'a été qu'un prétexte pour l'aborder. Elle lui plaît, tout simplement. Elle n'a rien d'une vieille belle. C'est une belle femme, c'est tout. Il a la tête qui tourne. Il se rend compte qu'il a trop bu, sans même s'en apercevoir. Il marche longtemps sur le sentier en s'enfonçant dans les profondeurs du bois. La musique arrive par bribes, couverte par les mugissements de la roue à aube qui tourne dans l'eau noire. Il ne pense plus au pari. Il n'est guidé que par son propre désir.
« Vous savez que vous manquez de conversation depuis qu'on marche sous les arbres ?»
lui fait-elle remarquer.
« C'est vous qui me troublez, » murmure-t-il en s'efforçant de donner à sa voix une inflexion charmeuse.
À cet âge, il le sait, elles aiment les garçons entreprenants. Alors il essaie de masquer son trouble et de se comporter comme le don Juan qu'il est censé être. Elle est prête à s'offrir sans doute, sinon elle ne l'aurait pas suivi jusqu'ici. Lui a vraiment très envie d'elle. Il hésite pourtant. Il voudrait la voir, mais pas comme ça. À un moment, elle le frôle en marchant, ou bien est-ce lui qui la frôle? Cette femme à ses côtés attise son désir. Il sent qu'il n'en peut plus. Pourquoi est-ce qu'il se gênerait? Elle n'a pas l'air farouche et ce n'est pas lui qui l'a forcée à venir se promener dans les bois. Il continue de marcher côte à côte, sans un mot.
« Mon verre est vide, » dit-elle.
« Le mien aussi. »
« Est-ce que cela veut dire qu'on devrait rentrer?
On ne voit pas grand-chose ici. » Il lui prend le verre des mains et le dépose avec le sien au pied d'un arbre.
« Vous ne les trouvez pas mignons, tous les deux, côte à côte, au clair de lune ?»
Elle rit en frissonnant un peu. Il se penche vers elle pour lui désigner le sentier qui se perd dans l'obscurité. Il effleure son épaule et murmure. « J'ai bien envie de continuer par là avec vous. » Elle reste immobile. Il la sent crispée. Alors il la frôle encore. Il sait d'expérience qu'elles aiment qu'on les touche légèrement, imperceptiblement, du bout des doigts, qu'on allume de petits incendies le long de leur corps, juste avant le feu du baiser. Il l'attire lentement, avec art, tandis que l'envahit un désir incroyable. Il la veut, tout de suite. Il l'enlace, approche son visage du sien, cherche sa bouche. Mais au lieu d'entr'ouvrir les lèvres en renversant la tête, elle se détourne.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas?
Elle reste sans rien dire, frémissante et rétive, hésitante au bord du gouffre. Ça ne fait qu'augmenter son désir. Il resserre son étreinte et laisse glisser sa main le long de son dos.
Tout doux, ma belle.
Mais elle le repousse violemment, recule, le dévisage. Il sent son cœur qui s'emballe.
Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème?
Elle dit très calmement. C'est juste que je ne veux pas aller plus loin.
Vous ne voulez pas?
Répète-t-il incrédule. J'avais seulement envie de bavarder un peu et de faire quelques pas. Mais ça, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est tout. Tout tremblant de désir, il lui saisit le bras et crie d'une voix qu'il reconnaît à peine.
« Mais vous ne pouvez pas me faire ça !»
Elle répond « Lâchez-moi !» et fait un geste pour se dégager, mais il la retient fermement.
« Attendez, il y a un malentendu, on ne peut pas se quitter comme ça !»«
Je vous demande de me lâcher » répète-t-elle glaciale. Il la serre encore plus fort, il la veut, il est déterminé. Mais tandis qu'il cherche à l'étreindre à nouveau, elle lui donne un violent coup de genou dans le bas-ventre. Il s'effondre à ses pieds.
« Putain, c'est pas vrai, vous êtes complètement cinglé !»
hurle-t-il, les mains recroquevillées sur son sexe endolori. Il entend son rire, bref et cristallin.
« Je suis sûr que vous vous en remettrez !»
Elle ne bouge pas, le regard de quelques instants se tordre de douleur, puis elle ajoute d'une voix étrangement calme. « Merci quand même pour la promenade. C'est tout ce dont j'avais besoin ce soir. » Elle lui tourne le dos, elle s'en va. Il crie furieux, désespéré.
« Espèce de salope! Allumeuse !»
Sans se retourner, elle lui fait de la main un petit au revoir. Très vite, elle disparaît sur le sentier. Il reste seul, tremblant de douleur et de déception, à fixer dans l'ombre l'endroit où sa silhouette s'est fondue dans la nuit.